extérieur. La passion regarde toujours l'aspect extérieur et premier, tandis qu'au contraire, cet amour spirituel regarde la profondeur de la personne de l'autre. La passion ne découvre pas la personne. Seul cet amour spirituel me permet de découvrir la personne de l'autre et de me permettre de découvrir. Donc, cet amour aura bien quelque chose de spontané au point de départ, mais il mettra du temps. Ça, c'est le mode humain. Je ne peux pas dire spontanément « Ah, j'ai rencontré cette personne, c'est ma meilleure amie ou mon meilleur ami, que... j'en suis sûr. » Non, dites ça au bout de 10 ans. Mais ne dites pas ça le lendemain. Vous ne pouvez pas le dire. Vous pouvez dire « Ah, j'ai été frappé par cette personne, j'ai encore jamais été frappé comme par cette personne-là. » Je me souviens, c'était dans un voyage de Grèce, où je faisais c'est le premier voyage de Grèce que je faisais, comme j'enseigne la philosophie grecque, ça m'intéressait beaucoup, et j'avais fait ça avec un sculpteur qui était un de mes amis, qui habitait Genève. C'est bon d'aller en Grèce avec des sculpteurs, c'est intéressant. C'est mieux. Le philosophe y va, et puis on aime bien d'être accompagné d'un sculpteur. Ça faisait quelque chose d'assez intéressant. Alors on était dans une île, dans une des îles, c'est là où on retrouve les types les plus grecs. Tout d'un coup, je reçois un bon coup de poing en pleine poitrine. C'était mon sculpteur qui me dit « Regardez cette déesse !» Alors il y avait une déesse qui passait, évidemment, une déesse grecque. Je sais qu'il avait des yeux extraordinaires, merveilleux. Ce sculpteur était. Il n'a pas dit que c'était sa meilleure amie, excusez-moi, non, mais il était extraordinairement frappé de tout ça. Parce que c'était beau, c'était vrai, c'était beau à voir, c'était très beau à voir. C'était un regard merveilleux, étonnant. Et ça, c'est pas l'amitié, c'est la séduction. C'est la beauté, c'est la séduction. L'amour va beaucoup plus loin. Nigra sum, cette formosa. Je suis noir, j'ai des yeux qui sont fatigués, mais mon cœur n'est pas fatigué. Vous voyez, on va au-delà du regard pour saisir l'âme. Pour saisir l'âme, saisir la personne, c'est saisir l'âme dans sa profondeur, dans son intériorité. Et ça, ça met du temps. Ça met du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et plus on aime en profondeur, plus ça met du temps. Et on découvre alors les profondeurs de quelqu'un. Et on voit très bien que le premier jugement qu'on avait pouvait être très faux. Parce que c'était un jugement superficiel, un jugement passionnel, un jugement qui relevait de l'extérieur. Tandis qu'au contraire, quand on a découvert en profondeur quelqu'un, c'est autre chose. Eh bien, dans l'amour d'amitié, il faut comprendre qu'il y a ce regard en profondeur. Et il y a cet amour qui saisit ce qu'il y a de plus intime dans l'autre. Mais vous comprenez ce qu'il y a de plus intime dans l'autre, hein ? Ce qu'il y a de plus intime en vous aujourd'hui, dans 10 ans, si vous continuez à faire de la philosophie, si vous continuez à progresser en sainteté, dans 10 ans, votre profondeur sera encore beaucoup plus profonde que maintenant. Et c'est vrai, il y a une profondeur qui se fait de plus en plus. La profondeur de maintenant et il y a 5 ans, je suis persuadé que la profondeur de votre âme actuellement est beaucoup plus forte qu'il y a 5 ans. Alors, vous voyez ce cheminement de l'amour d'amitié. C'est là on voit que dans l'amour d'amitié, il n'y a pas de limite. C'est un infini, c'est un abîme, la personne de l'autre. C'est un abîme, parce qu'on touche son âme, on touche son esprit. Et donc la profondeur peut aller toujours plus loin. Et c'est ça qui nous fait découvrir l'amour d'amitié. Et c'est ça qui nous fait découvrir qu'il y a dans chaque personne humaine un trésor. Dans chaque personne humaine, il y a un infini qu'on n'arrivera jamais à épuiser. C'est en ce sens-là que la personne humaine peut être mon bien d'une façon absolue, parce qu'il y a en elle un absolu. Il y a quelque chose d'inépuisable, tandis que les qualités sensibles, ce n'est pas inépuisable. La beauté d'un regard, oui, c'est très très bien, mais quand vous la regardez pendant... Vous direz, j'aimerais mieux regarder un autre tableau. J'aime mieux regarder un autre tableau, c'est très très beau, oui, c'est un type ineffable, c'est évident, mais il y a quand même quelque chose d'autre aussi. Alors, on se fatigue, vous voyez, la sensibilité se fatigue, ça s'use. Alors, quand les pneus sont usés, il y a des dérapages. N'est-ce pas ? La sensibilité s'use. Alors, il faut qu'au-delà de la sensibilité, la volonté spirituelle, notre capacité d'aimer, arrive à découvrir la profondeur de la personne humaine. Arrive à découvrir la profondeur de ce qu'est celui qui est capable d'aimer. Notre profondeur, c'est notre capacité d'aimer. Ce n'est pas tellement notre connaissance, vous voyez. La profondeur du cœur va plus loin que la connaissance. Je ne dis pas que la personne sait aimer l'intelligence de l'autre. Mais quand on épouse un génie, attention au lendemain. Parce que j'épouse une intelligence remarquable. Cette intelligence mathématique, ça me séduit. J'épouse ce génie. Ou j'épouse un artiste. Il est génial, ce bonhomme-là. Extraordinaire. Ou cette bonne femme-là. Extraordinaire. Génial. Quand vous épousez le génie, attention. Le génie peut être rival de la personne. C'est la personne qu'on aime, c'est pas le génie. C'est la personne qu'on aime. Et la personne, c'est sa capacité d'aimer. C'est pas son intelligence. Ah, son intelligence, ça flatte. Ah oui, ça flatte. J'aime cette personne qui est géniale, et elle m'aime ce qui est bon. Et elle est géniale, et quand elle est en société, oh, c'est merveilleux, c'est un feu d'artifice. Très très bien, mais... Feu d'artifice, ça ne dure pas très longtemps. Et après les feux d'artifice, hein, l'obscurité est d'autant plus grande. Alors il faut aimer la personne et non pas le feu d'artifice. C'est très important de voir ce que vise l'amour d'amitié. L'amour d'amitié vise la personne et non pas toutes les qualités. Et l'intelligence est une des qualités. Elle vise le cœur profond, la capacité de l'autre d'aimer. Et c'est cette rencontre des deux cœurs qui font l'amour d'amitié. Et donc, il faut normalement du temps. Ça ne se fait pas d'un seul jour. Ça se fait progressivement. Alors, vous comprenez que nous sommes tous responsables de l'éducation de notre cœur. Là, on touche un point très, très important. Parce que c'est peut-être ce qui manque le plus dans notre monde d'aujourd'hui. Notre monde d'aujourd'hui est un monde d'efficacité. Notre monde d'aujourd'hui est un monde de rapidité. On n'a plus le temps d'aimer. Je me souviens, c'était avant que j'entre dans l'ordre, c'est déjà vieux, j'avais 17 ans, et j'avais été en Normandie chez des cousins, et j'avais rencontré là un vieux fermier normand. Je crois qu'il avait 90 ans. Quand on a 17 ans, rencontrer un fermier de 90 ans, c'est quand même respectable. Et ce vieil homme s'est pris d'affection comme ça, s'est mis à me raconter sa vie. Et puis il m'a dit qu'il était célibataire. Pas par amour pour être célibataire. Il était célibataire parce qu'il n'avait pas eu le temps de se marier. Il m'a dit ça comme ça. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne comprenais pas. J'ai pas eu le temps de me marier. Alors il m'a expliqué, mais oui, il m'a dit, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de me marier. Je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, la rapidité des événements fait que le cœur de l'homme n'a plus le temps d'aimer. La rapidité des événements. C'est qu'on n'a plus le temps d'aimer. Alors ce bon fermier m'a dit, que voulez-vous, c'est très simple, mes parents sont morts quand j'avais 18 ans, 19 ans, il y avait la ferme. Ben, la ferme, c'est plus précieux que tout pour un mormon. Ben, il fallait donc être là pour la ferme. Et vous voyez bien le bétail, hein, il n'y a pas de dimanche pour le bétail. Donc je ne pouvais plus aller à la messe. Or, les filles qui sont bien, on les voit à la messe. C'était le normand, tu vois. Les filles qui sont bien, on les voit à la messe. Là, on est sûr. tandis que je ne pouvais plus les rencontrer, donc. J'avais plus la messe, alors j'ai pas eu le temps, et j'ai pas pu rencontrer une fille, et je suis resté seul. Les années s'avançaient, je suis resté seul. Maintenant, je reste seul avec ma ferme. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? C'était très tragique, mais c'était très beau, hein. C'était la sagesse de ce vieillard qui disait « Je n'ai pas eu le temps d'aimer. » Et moi, ça m'est resté. Il faut du temps pour aimer. On éduque son amour. On éduque son cœur. On n'est pas responsable du premier jaillissement de l'amour. Ça, c'est vrai. Ça vient de Dieu. Tout amour vient de Dieu. On n'est pas responsable du premier jaillissement du cœur. Mais on est responsable de la croissance de notre amour. On est donc responsable de la capacité qu'on a actuellement d'aimer et d'aimer de l'amour d'amitié. On en est tous responsables. Et vous comprenez bien qu'il y a une période où ça se fait plus facilement, hein, de 20 ans à 40 ans. Je crois que c'est plus difficile de commencer à 40 ans. C'est plus difficile, ça peut se faire, hein. Il y a des amitiés de gens de 40 ans. Ça peut très bien se faire. Il ne faut pas dire du tout que c'est impossible, parce que c'est l'esprit. Alors, l'esprit ne vieillit pas. Notre sensibilité vieillit. Il y a des émotions qu'on a à 18 ans qu'on n'aura pas à 70 ans. Ça, c'est bien évident. C'est sûr. À 18 ans, on a des émotions de 18 ans. Quoi. C'est merveilleux de voir ça. C'est le poulain, que voulez-vous, dans l'ordre de l'amour. C'est merveilleux, un poulain. Ça a une grâce très particulière. Eh bien, dans l'ordre de l'amour sensible, c'est bien évident. Quoi. À 18 ans, les passions. On est toujours jeunes en nous, les passions. Mais notre esprit, donc les passions vieillissent. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas chercher, quand on a 50 ans, de retrouver des passions de 18 ans. Ce serait très faux, ça. C'est factice. C'est pas accepter de vieillir. Alors, la sagesse, c'est accepter de vieillir. C'est accepter que nous avons un certain âge et que nous savons très bien. Nous vieillissons. Le père Sertilange disait tout le temps, moi, je suis toujours jeune. Alors, il voulait tout le temps être avec les jeunes. Et les jeunes se fatiguaient de lui parce qu'il était vieux. C'était le petit point idéaliste du père Sertilange, parce que c'est un manque de réalisme. Le réalisme consiste à dire, mais oui, je suis de telle génération, j'ai tel âge, c'est bien évident, mais mon cœur ne vieillit pas, mon esprit ne vieillit pas, et si mon esprit recherche tout le temps la vérité, il ne vieillit pas, et si mon esprit, dans ma volonté, recherche toujours à aimer plus, il ne vieillit pas. Vous voyez, c'est ce que Goethe disait, il faut que dans le cœur de l'homme, il y ait toujours le cœur de l'enfant. Bon, il exprimait ça en poète, ce que j'exprime maintenant en philosophe. Il faut que dans le cœur de l'homme, il y ait toujours une possibilité d'aller plus loin. Autrement, on plafonne. Il faut qu'on puisse comprendre que l'esprit, dans la volonté et dans l'intelligence, n'a pas d'âge. Ça qui est extraordinaire. L'esprit n'a pas d'âge puisqu'il est au-delà de la matière. Donc il est au-delà du temps. Nous avons des capacités de renouvellement. Vous voyez, c'est ce que ne comprend absolument pas Freud, ça. Et c'est pour ça qu'il veut revenir toujours en arrière, au premier moment où il y a eu un complexe. Et vous ne le saurez jamais. Alors c'est pas la peine, vous ne le saurez jamais. Alors c'est pour ça qu'il fait un complexe omnibus. Et le complexe omnibus, c'est Oedipe. Vous voyez, alors c'est le complexe Oedipe, ça. Alors pas du tout. Chacun d'entre nous, nous avons eu des petits complexes. Mais c'est ça pas important. Le tout, c'est de savoir qu'il y a une source actuelle en nous. Vous pouvez actuellement renaître, vous rajeunir. C'est merveilleux. Vous pouvez actuellement vous rajeunir, ne pas avoir d'âge, même si vous avez 35 ans, en disant « je suis 35 ans, je pleure mes 20 ans ». Mais non, comprenez qu'il y a en vous l'esprit, et que l'esprit peut tout le temps rajeunir. Rajeunir dans l'ordre de l'amitié, c'est pour ça que les amitiés peuvent se faire à n'importe quel âge. Mais évidemment, l'éducation du cœur se fait surtout de 20 ans à 40 ans. Ça, c'est sûr. Ça, c'est l'éducation du cœur. Et on est seul capable d'éduquer notre cœur. Seul. On peut avoir des pères, qui nous aident. On peut avoir des mères qui nous aident pour l'éducation première de notre sensibilité. Mais l'éducation de notre cœur profond, c'est l'Esprit Saint. En tant que chrétien, en tant que philosophe, je dirais, ce sont des amis plus âgés que nous. Parce qu'il y a des amitiés qu'on peut avoir à l'égard de gens qu'on respecte, qu'on aime profondément, qui sont comme des pères spirituels, ou qui sont comme des mères spirituelles, alors qui nous aident dans les éclosions profondes de notre cœur profond. Alors, dans cette éducation du cœur, quelques principes, hein, quelques petits principes qui sont très très importants à saisir. Parce que c'est important cette éducation du cœur, c'est capital, vous comprenez. L'éducation des vertus, c'est très important, mais l'éducation du cœur est encore beaucoup plus importante. Alors, quelques petits principes très simples. Comprendre que toujours, l'amour dépasse la connaissance que nous avons de celui que nous aimons. Ce que je vous disais hier. Mais ça, c'est très très important dans l'ordre de l'amour d'amitié. Parce que vous comprenez, dans l'ordre de l'amour d'amitié, nous avons conscience d'être aimés. Et nous avons conscience d'aimer. L'amour d'amitié se noue dans cette conscience. J'ai conscience d'aimer quelqu'un, je l'ai choisi. Nous le dirons tout à l'heure. Hein. Je l'ai choisi. L'amour d'amitié se noue dans un choix. J'ai choisi cette personne comme amie. Tant que vous ne l'avez pas choisi, il n'y a pas d'amour d'amitié. Je l'ai choisi. Pas besoin d'avoir des témoins. Hein. Pas besoin. Ça, c'est autre chose, c'est pour des contrats. Mais au fond, ben, l'amour d'amitié n'a pas besoin. Ordinairement, on choisit quelqu'un, tout simplement, en face de quelqu'un qui nous choisit lui-même. Donc c'est un choix réciproque. Un choix est toujours conscient. Un choix est toujours libre. Donc il y a une liberté et une conscience. J'ai conscience de choisir et j'ai conscience qu'il m'a choisi. Alors, le très grand danger, c'est de mesurer notre amour à la conscience que nous avons de l'amour de l'autre. C'est ça le grand danger. Et je suis persuadé que c'est ça qui arrête constamment la croissance de l'amour. Oui, je vais essayer d'expliquer ça, parce que ça, il faut le saisir, ça. Et c'est facile, c'est pas très difficile à comprendre ça. Mais dans la vie pratique, c'est très difficile. Théoriquement, comme nous le faisons ici, c'est facile, on est tous d'accord. Mais vous verrez que dans la vie pratique, ce n'est pas commode du tout. Vous voyez, j'ai conscience que l'autre m'aime. Mais la conscience que j'ai de l'autre, de l'amour de l'autre, n'est pas ce qui détermine, ce qui spécifie mon amour. J'aime la personne de l'autre. C'est l'autre que j'aime, dans son absolu. Et non pas... Donc c'est ça qui détermine mon amour. Ce qui détermine mon amour, c'est la personne de l'autre, c'est l'autre en tant qu'il est une personne, en tant qu'il est mon bien. C'est cela qui détermine mon amour. Et non pas la conscience que j'ai qu'il m'aime. La conscience que j'ai qu'il m'aime a éveillé en moi, c'était la petite étincelle, qui a permis de le découvrir en profondeur. Oui, c'était la petite étincelle qui a permis ça. Donc c'était une condition nécessaire. C'est une condition nécessaire, il faut cela. Mais ce n'est pas la conscience de l'amour de l'autre qui détermine mon amour. Quand mon amour faiblit, c'est la conscience de l'amour de l'autre qui détermine mon amour. Alors à ce moment-là, vous voyez le drame dans la vie courante que vous vivez. Dans la vie courante, on est pris par tel ou tel drame, telle ou telle difficulté, qui fait qu'à ce moment-là, on est un peu moins attentif à l'autre, à son ami. Ce serait la même chose pour des époux, hein. C'est exactement la même chose, parce que le mariage implique l'amour d'amitié, ça c'est sûr. Alors, on est moins attentif, on est pris par tel ou tel, l'autre s'en aperçoit,
Il dit, tiens, il m'aime moins. Il est moins attentif à moi. Et les deux s'usent. Le dérapage se fait. Moi, il est moins attentif. Oh, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'aime. On devient méfiant. On regarde la chose. Alors, à ce moment-là, puisqu'il m'aime moins, et que c'est la conscience de son amour vis-à-vis de moi qui détermine mon amour faiblit. Alors que je devrais faire l'inverse, si je l'aimais vraiment. Si je l'aimais vraiment, je voudrais dire, oui, il est moins conscient. Pourquoi ? Parce que, sans doute, il y a telle ou telle difficulté dans sa vie. Il est fatigué. Il y a un drame qu'il est en train de porter. Il ne peut pas me le dire, mais c'est normal, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement dire. Alors je sens qu'il est moins présent, je sens qu'il est moins conscient, que son amour est moins actuel. Alors je vais l'aimer encore plus. Oui, c'est la réponse inverse. Alors que psychologiquement, on fait l'inverse. Et c'est ça qui fait que progressivement, un amour d'amitié avance. Alors qu'il devrait au contraire, devant telle ou telle difficulté, si on aime vraiment l'autre, on sait qu'il est en péril, on l'aime encore plus. Exactement comme une mère. Une mère, quand elle sait que son enfant est en péril, elle l'aime plus. Elle est là pour la rattraper par la peau du dos. On me dit, il y a un précipice. J'ai beau te le dire. Genre, tu ne tiens pas compte. Mais moi, je sais que tu veux y aller. Alors, elle est là au bon moment pour le prendre par la peau du dos au moment où il se prépare dans le précipice. C'est ça que fait l'amour maternel. L'amour maternel fait ça. Eh bien, il faudrait que dans l'amour d'amitié, il y ait la même intelligence. C'est très intelligent, vous savez, l'amour d'amitié. On n'a pas assez d'intelligence dans l'amour d'amitié. On n'a pas assez d'intelligence vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis des circonstances dans lesquelles il se trouve. Alors, c'est ça qui est très important, vous voyez. Je crois que c'est la première exigence de la croissance de l'amour d'amitié. C'est de comprendre que mon amour d'amitié n'est pas mesuré par la conscience que j'ai de l'amour de l'autre. C'est l'autre que j'aime. Et c'est la seule absolue, parce que la conscience que j'ai de l'amour de son amour n'est pas un absolu. Donc je le relativise. Tandis que quand j'aime l'autre, quand j'aime la personne elle-même, dans son absolu, ça, il n'y a pas moyen de relativiser. Une personne est toujours ineffable, elle est toujours unique, on ne peut pas la comparer aux autres. Mais second principe, la croissance d'amitié, c'est justement ne jamais comparer. Dès que vous commencez à comparer, il me semble qu'il aime mieux telle autre personne. Et, alors, c'est le raisonnement qui intervient, c'est l'intelligence qui intervient, et l'intelligence qui prend alors une place de plus en plus importante et qui empêche l'amour d'être simple. L'amour est toujours simple parce qu'il est absolu. Et dès que vous mettez la comparaison, alors à ce moment-là, vous mettez la méditation avant la contemplation. Parce que c'est la comparaison. Vous mettez à comparer. Alors ça, c'est l'inquiétude qui vient. Et il y a un déracinement qui se fait. C'est très très net ça. C'est le second petit diable. Vous voyez, il y a deux petits diables qui viennent empêcher la croissance de l'amour. Là, c'est de croire que mon amour d'amitié est mesuré par la conscience que j'ai de l'amour de l'autre, et c'est de vouloir comparer. Alors que l'amour, dans ce qu'il a de plus fort, est un absolu qui se porte vis-à-vis de l'autre. Et c'est ça la lucidité profonde de l'amour d'amitié. Et c'est la seule croissance possible. Il y aurait beaucoup d'autres aspects qui montrerait les arrêts. Mais je crois que c'est les deux les plus profonds dans la croissance de l'amour d'amitié. Les deux obstacles qu'il faut tout de suite dépasser. Et ça, on peut le dépasser. Il y en a beaucoup d'autres, parce que c'est les circonstances, vous voyez. Comme vous disiez, il faut du temps. Alors, quand on n'a plus assez de temps, on ne permet pas la croissance de l'amour de se faire. La croissance de l'amour demande du temps. Il faut qu'on puisse vraiment avoir du temps. Et puis, il faut, en plus, autant que possible, réaliser une œuvre commune. Ça, c'est le propre aussi de l'amour d'amitié, c'est de réaliser une œuvre commune. Quand on ne réalise absolument qu'une œuvre commune, l'un fait ceci, l'autre fait l'autre,
fait autre chose. L'œuvre a toujours, hein, c'est propre de l'œuvre. L'œuvre a toujours cette espèce de pouvoir de nous accaparer totalement. Le jour où l'œuvre s'identifie à la personne et que l'ami a telle œuvre et que l'autre a telle autre œuvre, le jour où l'œuvre prend possession de la personne, les deux seront l'un à côté de l'autre, complètement différents, parce qu'ils seront identifiés avec leur œuvre. Et c'est aussi un très grand danger, ça. On voit très bien. C'est le danger constant, ça, d'empêcher l'amour d'amitié. Alors, pour que l'amour d'amitié puisse survivre, que chacun ait son œuvre, ça peut très bien se faire. Il ne faut pas du tout dire « Ah, il faut absolument qu'il n'y ait qu'une seule œuvre, que le mari ait une seule œuvre et que la femme n'ait pas d'œuvre. » Non, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est très faux de dire ça. Chacun peut avoir son œuvre, mais il faut à tout prix une œuvre commune. Il faut à tout prix une œuvre commune. Donc, dans le foyer, c'est facile. L'œuvre commune, c'est l'éducation des enfants. Ça, c'est l'œuvre commune. Il faut que les parents, les deux, s'intéressent aux enfants et éduquent les enfants, comprenant que c'est une œuvre commune, c'est pas l'œuvre seulement de la mère, c'est pas seulement l'œuvre du père. La vaisselle peut-être plus uniquement du côté de la femme, mais sauf en Amérique où c'est l'inverse, bon, c'est l'homme qui fait la vaisselle. Alors, mais autrement, pour l'œuvre commune de l'éducation des enfants, le fait d'y réfléchir ensemble, de les aimer, c'est l'œuvre commune. Il peut y avoir à côté de cela autre chose. C'est très très bien. Parce que c'est quelquefois nécessaire qu'il y ait autre chose qu'on fasse ensemble. C'est très très important ça. Parce que l'œuvre commune maintient du temps de présence. Ça matérialise, vous voyez, ça matérialise dans le bon sens, ça concrétise, si vous voulez, ça incarne l'amour. L'œuvre incarne l'amour, l'œuvre commune. Et là, ça permet d'avoir du temps qu'on passe ensemble. L'amour d'amitié réclame qu'on brûle du temps. Que le temps soit brûlé pour qu'on puisse être l'un avec l'autre. L'amour d'amitié réclame la vie commune. Et la vie commune réclame qu'on ait du temps ensemble. C'est ça le propre de la vie commune. Et l'amour d'amitié demande cette vie commune. Donc, voyez, là, nous voyons comment il peut y avoir cette auto-éducation de l'amour d'amitié. C'est absolument nécessaire. Alors maintenant, si vous voulez, faisons un effort d'entrer encore plus dans la structure de l'amour d'amitié. Tous les éléments qui sont impliqués dans l'amour d'amitié. Ça nous permettra de mieux saisir. L'amour d'amitié implique un choix, je vous l'ai dit tout à l'heure, un choix mutuel. Donc, un choix réciproque. Je choisis celui qui me choisit. Donc, les deux choix sont réciproques et se rencontrent. Les deux choix ne sont pas nécessairement égalité. Il n'y a pas d'égalité dans l'amour. Hein. Donc, il ne faut pas dire « Ah, tu m'aimes plus, tu m'aimes moins que je t'aime. Hein. » Dites pas ça. Je t'aime autant que je peux. C'est toujours ce qu'il faut dire. Le plus que je peux, je t'aime pleinement. Et je sais que tu m'aimes de la même manière. C'est dans la plénitude du choix, parce que le choix implique justement cette totalité dans l'amour d'amitié. Ça implique une totalité. Donc, il ne faut pas d'égalité. Vous voyez, dès que vous prenez l'égalité, vous réintroduisez l'élément de connaissance. Vous réintroduisez l'élément de comparaison. Il y a un amour absolu. Vous choisissez une personne. C'est une personne que vous choisissez. Et vous la choisissez de préférence à tous les autres. C'est ça le propre du choix. Tu es l'unique. C'est toujours ce qu'on dira. Ça ne peut pas être autrement. Tu es l'unique. Et on est nécessairement l'unique si on est choisi. Autrement, on ne serait pas choisi. Donc, on est l'unique. C'est cette personne-là, c'est à ce sens-là que l'amour d'amitié tend toujours vers un ami ou une amie. C'est le fameux problème que les Grecs se sont posés, est-ce qu'il est préférable d'avoir un seul ami ou d'en avoir beaucoup? Et vous comprenez, tout dépend de la qualité.
Tout dépend de la qualité. Si la qualité de l'amour n'est pas très forte, alors la quantité remplace la qualité. Mais si la qualité est très forte, ben, la qualité fait que un ami s'impose. Mais cet ami n'exclut pas les autres. C'est ça qui est merveilleux dans l'amour, parce que c'est qualitatif. Donc ça n'exclut pas. Quand on aime intensément quelqu'un, on devient capable d'aimer beaucoup d'autres personnes. C'est le propre d'un amour spirituel. Mais il y a la différence de l'aspect quantitatif. Ce que je vous disais, si on est beaucoup à manger la tarte, les morceaux sont plus petits. Tandis que quand il s'agit au contraire de l'amour spirituel, l'intensité de l'amour vis-à-vis d'une personne qui est l'unique, et qui est toujours l'unique parce qu'elle est choisie, fait que je deviens capable d'aimer plus. Parce que mon cœur s'agrandit. Mon cœur s'agrandit. En aimant quelqu'un, en le choisissant, mon cœur s'agrandit. Il s'agrandit à la dimension de l'autre personne. Oui. Je me quitte moi-même pour aimer l'autre. Donc, il y a un choix réciproque. Ce choix est libre. C'est évident, vous n'allez pas dire à quelqu'un « Je t'ai choisi comme amour, t'as pas ma vie parce qu'il n'y a personne d'autre. » Ça ne va pas. Je t'ai choisi librement. Ça s'est imposé comme il fallait bien qu'il y ait quelqu'un, mais je l'ai trouvé sur ma route, je trouvais ça très bien. Non, il n'y a aucune liberté, c'est tout simplement, on s'est retrouvé comme ça, on ne sait pas très bien, tu te rappelles, c'était telle circonstance, c'est absolument pas prémédité, on s'est rencontré là. Oui, il y a des circonstances comme ça, mais le choix libre, il est au-dedans de nous-mêmes. C'est important de se rappeler ça, parce que vous savez bien, le freudisme dit qu'il n'y a pas de choix. Qu'il n'y a pas de liberté. Parce que justement, il n'y a pas d'amour spirituel. La liberté est au niveau de l'amour spirituel. C'est ça l'amour spirituel qui est libre. L'amour passionnel n'est pas libre. Absolument pas. Mais l'amour spirituel est libre. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ce choix libre. Et l'Église y tient énormément. Pour le mariage, l'Église y tient énormément. Parce qu'il n'y a pas d'amour d'amitié sans liberté. C'est impossible. Vous savez, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de mariage. C'est la nullité du mariage. C'est toujours le grand point de vue que prend l'Église. Et c'est vrai, il y a des circonstances où quelquefois, il n'y a pas eu de choix libre. Il y avait une grand-mère qui voulait à tout prix que sa petite-fille se marie. Alors la grand-mère a tellement pesé sur le cœur de la petite-fille que la petite-fille était obligée de dire oui, puis elle a épousé. Puis alors au bout de 10 ans, elle s'aperçoit qu'elle ne rentre pas. Quelquefois même avant. Alors à cette personne, c'était la grand-mère qui avait insisté tellement fortement que la petite fille ne pouvait pas dire oui librement. Alors quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de choix. Le choix est nécessairement libre. C'est à travers le choix qu'on découvre le mieux ce que c'est que la liberté. La liberté est une qualité du choix. Le choix doit être libre. Et par le fait même qu'il est libre, justement, ça se porte sur non seulement l'unique, mais en préférence avec tous les autres. Et vous voyez, ce choix exclut les autres. C'est pour ça que quand on remet la comparaison, vous supprimez le choix libre. Il y a une préférence dans le choix libre, il y a une préférence. Je préfère cet ami à tous les autres. Je t'ai préféré à tous les autres. Vous voyez, dans le Cantique des Cantiques, hein, c'est dit admirablement. Parce que c'est le cantique de l'amour d'amitié. Et alors, on voit très bien, je t'ai préféré à tous les autres. Tous les autres disparaissent devant toi. Et c'est vrai, ça, dans l'amour d'amitié, il y a cette préférence. La personne est unique et elle est préférée à tous les autres. Donc, liberté qui permet cette préférence et qui permet ce poids particulier d'un choix. Je choisis cette personne et je suis en même temps choisi. Parce qu'il y a choix, il y a liberté, il y a conscience. Je suis parfaitement conscient de ce choix. Je suis parfaitement conscient. Il y a une lucidité dans l'amour d'amitié. Je suis lucide d'aimer quelqu'un. Tant qu'il n'y a pas lucidité, ça prouve que cet amour d'amitié est encore très trouble, pris par des passions, et que le point de vue spirituel n'est pas suffisamment net. Il y a un choix. Un choix conscient libre. Voilà. Ça, c'est le nœud. C'est ça qui constitue l'amour d'amitié. Qui fait qu'à partir de ce moment-là, il y a deux personnes c'est évident, puisque l'ami aime son ami. Il y a deux personnes et il y a le même vouloir. Ça, c'est très beau. Idem velle, le même vouloir. Deux amis qui s'aiment, c'est deux personnes dans l'unité des cœurs. Parce que quand je dis le même vouloir, c'est l'unité des cœurs. On a la même intention. Alors voilà, on va préciser maintenant l'unité des cœurs. On a la même intention de vie. Ça qui est très très grand dans l'amour d'amitié. C'est pour ça que si vous aimez quelqu'un qui a une intention de vie totalement différente de vous, le choix ne pourra pas se faire. Alors vous voudrez ne pas être lucide, leur dire « Ah non, non, je l'aime tellement. » En réalité, c'est la passion. Ce n'est pas un amour vrai. Un amour vrai fait qu'il y a la même volonté. Alors encore une fois, ça se fait progressivement, hein. Le jour du mariage, très très bien, mais le lendemain, un peu moins bien, et 10 ans après, beaucoup mieux. Si y a 300, vous voyez, c'est comme ça, parce qu'au fond, ça met du temps à faire qu'il y ait une fusion des cœurs. Mais une fusion du cœur spirituel, c'est-à-dire la même volonté, la même intention de vie. Ça met du temps, et puis il y a des moments où c'est plus difficile, il peut y avoir des moments rageux, difficiles, très difficiles. Donc, il y a le choix. Ce choix réciproque, conscient, implique cette identité de vouloir, et cette identité de vouloir fait qu'il y a la même intention de vie. Alors, on va préciser. Ça, c'est l'unité des cœurs. Dans la dualité des personnes, l'unité des cœurs, l'intention de vie. La même intention de vie. C'est au-delà de la compte, c'est au-delà du choix. Alors, quelle différence y a-t-il entre le choix et l'intention? C'est important de voir ça, parce que c'est quand même ce qui va permettre de comprendre comment les personnes se nouent entre elles. Et ça nous fait comprendre comment l'amour d'amitié, nous cesserons d'expliquer, l'amour d'amitié nous fait comprendre pleinement et totalement ce qu'est le point de vue moral. Aujourd'hui, ou pas, après Nietzsche, c'est très difficile de faire comprendre aux jeunes, à vous, de faire comprendre aux jeunes ce que c'est la responsabilité morale. Vous savez bien, c'est la grande crise de la morale, il y a une crise terrible, comme il y a dû avoir une crise à la fin de l'Empire romain. À la fin de l'Empire romain, il y a une crise terrible au point de vue moral. À la fin de ce que représente la culture chrétienne, il y a eu une culture chrétienne de notre Europe. Et nous sommes en présence d'une grande crise. C'est ce que Nietzsche a très très bien senti. Il a dit « L'Europe est née à partir du point de vue chrétien ». Le point de vue chrétien disparaît et nous tombons dans la déisme. L'Europe est donc détruite. C'est très joli comme vision. C'est une vision philosophique qui va très loin. Nietzsche n'était pas bête. Il avait très très bien compris ça. Il avait très bien compris que l'Europe était chrétienne et que l'Europe ne pouvait exister qu'en fonction de son origine chrétienne. Et que si elle n'est plus chrétienne, alors il y a à ce moment-là, la désagrégation. L'âme de l'Europe a disparu. Alors on essaie de rattraper comme on peut, les bouts, mais on ne sait pas bien. Alors on essaie de faire une Europe au niveau économique. On n'en fait pas une Europe au niveau économique. C'est impossible, il n'y a pas d'âme. Une Europe ne peut se faire qu'avec une âme, avec une culture commune, avec une finalité commune, avec des liens d'amour. Si vous voulez faire uniquement une unité économique, c'est un équilibre. C'est un équilibre économique. L'équilibre économique n'est pas une arme. C'est comme l'équilibre psychologique ne redécouvre pas l'amour. C'est la même chose. Pour qu'il y ait une Europe, il faut qu'il y ait une coopération. Et pour qu'il y ait une coopération, il faut qu'il y ait une intention de vie. Et une intention de vie, c'est justement un amour commun. S'il n'y a pas d'amour commun, impossible. Alors, Nietzsche a très très bien senti ça.
Et malgré ça, il a proclamé l'athéisme. C'était malgré lui, je crois. C'était malgré lui. C'était plus fort que lui. Parce qu'au fond, il n'a pas eu la force de dire être de son temps, ce n'est pas un absolu. La personne humaine est plus que l'être de son temps. Parce que l'esprit est au-delà du temps. C'est l'abdication de la personne quand on dit « pour moi, je veux être de mon temps ». Ça, c'est l'abdication complète. Hein. Quelqu'un qui dit ça, ça prouve qu'il n'a pas compris ce que c'était que la personne humaine. Que nous fassions attention de ce que nous sommes dans notre monde d'aujourd'hui, on doit être attentif à ce qui est de notre temps. On doit être attentif à la modernité. N'est-ce pas comme disait le philosophe ? On doit être attentif à la modernité. Mais la modernité n'est pas un absolu. La modernité, c'est le point de vue du conditionnement dans lequel je vis. La personne humaine dépasse ce point de vue-là. Et elle doit découvrir la finalité de la personne. Oui, alors on voit très bien l'abdication de tomber dans la modernité, être de son temps. Être de son temps, c'est être athée. Pour Nietzsche, c'est ça. C'est être athée. Et donc, il faut redécouvrir ce que c'est que le surhomme, ainsi de suite. Bon. À partir de Nietzsche, la morale kantienne, qui était la morale du devoir, et qui était, hélas, la morale du grand idée de chrétien, et de bon chrétien, qui était une morale stoïcienne, et pas une morale chrétienne. La morale de Kant en a reçu un grand coup. On ne peut plus être kantien après Nietzsche. Ça, c'est sûr. Bien encore, les professeurs de philosophie peuvent être encore kantiens, mais pas les élèves. Parce qu'ils sentent bien que Nietzsche est passé après, et faites à supprimer cette morale du devoir. Alors, comme on vivait de la morale du devoir et que Nietzsche, on ne sait plus. Aujourd'hui, on sent très bien la morale. Alors, il faut reprendre radicalement ce que c'est que la morale. Et on reprend le sens de la morale par le sens de l'amour d'amitié. Et ça, c'est redonner à la famille son véritable sens. Parce que la famille, c'est le lieu de l'amour d'amitié. C'est l'époux et l'épouse qui doivent s'aimer d'un amour d'amitié, et dans cet amour d'amitié, l'éclosion de ce que représente l'éducation, la première éducation. La première éducation se fonde sur l'amour d'amitié. Alors, là, il y a quelque chose de très important, vous voyez, c'est pour ça que je reprends le problème de l'amour d'amitié. C'est très beau l'amour d'amitié, mais c'est beaucoup plus important qu'on ne pense. C'est absolument fondamental aujourd'hui pour reprendre le sens d'une philosophie morale. Ça se fait à partir de l'amour d'amitié. Il y a un élément que je ne vous ai pas donné tout à l'heure et que je veux reprendre maintenant avant de regarder l'intention de vie. C'est que dans cette conscience mutuelle qu'on s'est choisie, il y a immédiatement le sens de la responsabilité. Quand on a choisi un ami, on est responsable de son ami. Vous voyez, dans ce choix mutuel, dans ce choix libre, dans ce choix préférentiel, il y a immédiatement le sens de la responsabilité. On s'est choisi librement, mais du fait qu'on s'est choisi, on est responsable l'un pour l'autre. Vous êtes responsable de votre ami. Comme l'épouse est responsable de son époux, l'époux est responsable de son épouse. Et responsable dans l'ordre de l'amour. La responsabilité est au niveau de l'amour. Vous voyez, la responsabilité, elle naît dans une relation personnelle. Je ne suis pas responsable en premier lieu à l'égard des instruments et des outils. C'est une petite responsabilité à l'égard des outils. Mais ce n'est pas la vraie responsabilité morale. C'est vrai, vous êtes responsable d'une façon... de ne pas abîmer un outil, parce que si vous abîmez un outil, c'est dangereux, parce que l'autre, qui surtout dans la vie commune, alors ce sera dangereux, parce que l'autre dira, attention, tu as abîmé mon outil, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas la véritable responsabilité. La véritable responsabilité, elle naît à partir de l'amour d'amitié. C'est dans l'amour d'amitié qu'on comprend qu'on est responsable de l'autre. Et qu'on est responsable de l'autre, et donc qu'on doit le garder. La responsabilité, c'est l'aider, c'est être à son service.
C'est de le soutenir au moment difficile, c'est de l'éclairer, c'est de lui donner conseil, c'est de ne pas s'imposer. Parce que quand on s'impose, on n'est plus responsable. On relativise l'autre. Tandis que quand on est responsable de l'autre en tant qu'il est un absolu, en tant qu'il est une personne, en tant qu'il doit lui-même orienter sa vie. C'est très difficile d'être responsable de l'autre. Et parce que où on l'étouffe, vous voyez la mère captative. Je suis responsable de mes enfants. Alors si je suis responsable de mes enfants, il faut toujours qu'ils soient sous mes yeux. Hein. Et puis dès qu'ils s'écartent un tout petit peu, ah, je ne peux plus être responsable. Donc, alors la mère captative, la mère poule, captative, et que si on touche ses poussins, elle se met méchante, des coups d'aigle, n'est-ce pas, c'est méchante parce qu'on touche à ses... Donc là, il faut éviter la maternité captative et la paternité captative. Parce que ça c'est le tyran, le père captatif. N'est-ce pas ? Alors, il faut éviter ce point de vue-là, parce que ça, c'est la désagrégation de la vraie responsabilité, et il faut éviter l'autre contraire, de dire « Ah, non, pas la responsabilité, c'est une personne, il n'a qu'à choisir pour lui-même, il choisira quand il sera libre, moi je ne veux pas influencer. » C'est l'attitude de « je veux pas influencer ». Donc on abdique l'autorité, on abdique la responsabilité. Il y a une abdication terrible de la responsabilité aujourd'hui, qui provient du fait qu'on a tellement peur d'être une mère captative. Parce que toujours, les psychanalystes diront tout le temps que tous les désordres proviendront de la mère captative, la pauvre mère captative. N'est-ce pas ? Tous les trésors, tous les défauts viennent dans ça. Vous venez un garçon de 15 ans qui a des difficultés auprès d'un psychanalyste, il dira toujours « Ah, mais c'est pas très grave. » C'est pas étonnant, oui, un a priori. C'est pas étonnant, vous aviez une mère, vous aviez un père terrible, vous avez eu peur de son autorité. Vous voyez ça. Et tous vos troubles proviennent là. Alors on a eu tellement peur qu'on a abdiqué. Le père a abdiqué son autorité, la mère a abdiqué son autorité, on a abdiqué la responsabilité. Et en abdiquant la responsabilité, vous supprimez la vie. C'est ça que c'est tellement important. Un amour personnel qui nous lie à des personnes implique toujours une responsabilité. C'est le nœud. La responsabilité, elle naît à l'intérieur de l'amour. Il n'y a pas de responsabilité sans amour. Alors évidemment, il faut éviter les deux contraires. Il faut éviter les deux contraires. C'est quelque chose de capital. Et donc, ajoutez ça parce que ça, c'est très important. Alors, comprenons que du fait même qu'on est responsable,